On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
Mmh. On y va pour les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, oui, oui,
bien sûr. The menu, please.
Oh, when it comes to food, Alice Waters is a legend. At 65, she's done more to change how we Americans eat, cook, and think about food than anyone since Julia Child. Alice Waters was only 27 years old in 1971 when she opened her French bistro, Chez Panisse, in Berkeley, California, today considered one of the finest restaurants not just in the United States, but in the world.
Oh, bon amour.
Waters has produced 8 cookbooks, but she's more famous as the mother of a movement now called Slow Food is a healthy alternative to fast food.
On dit d'elle qu'elle a changé la face culinaire des États-Unis. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir l'une des chefs les plus populaires d'Amérique, Alice Waters. Good morning.
Good morning.
Thank you very much for being Bonjour. Here with us today.
It's a great pleasure.
Thank you.
C'est un grand plaisir pour moi.
Chez Panisse, c'est le restaurant que vous avez fondé en 1971 à Berkeley, en Californie, tout près de San Francisco. C'est devenu une adresse culte pour les gourmets du monde entier et c'est devenu aussi le laboratoire d'une cuisine que l'on peut qualifier de sustainable, fresh, seasonal, organic, local. Une cuisine durable, fraîche, de saison, bio et locale. Vous êtes très engagé à Waters dans le débat public sur la transition écologique et alimentaire et vous êtes de passage en France pour la sortie de votre livre « L'art de la cuisine simple » aux éditions Kéribus et Actes Sud, un best-seller international, figurez-vous, publié en 17 langues et enfin traduit en français 11 ans après sa sortie aux États-Unis.
Enfin.
Pas très réactifs les éditeurs français et c'est d'autant plus étonnant qu'on va voir, Alice Waters, que vous entretenez une relation très intime avec la France. Vous allez nous raconter ce que vous appelez dans l'introduction de votre livre la révolution délicieuse, The Delicious Revolution, grâce à la traduction simultanée assurée par notre interprète Marguerite Capelle. Bonjour Marguerite.
Bonjour.
Également avec nous en ce dimanche, Camille Labro. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste gastronomique au quotidien Le Monde et dans son supplément M du week-end. Vous êtes également très engagé dans l'agriculture vivante et l'alimentation vivante. Vous êtes très proche d'Alice Waters, on va comprendre pourquoi,
ouais.
Au point d'avoir assuré la traduction de ce gros pavé en français. C'est vous qui l'avez traduit quand même.
Eh oui, on m'a dit que ça faisait 1 million de signes.
Beaucoup de travail, parce qu'il y a quand même 364 pages, quelque chose comme ça.
Ouais.
Beaucoup de recettes, ça a été du travail. Vous nous avez même cuisiné le meilleur de ce livre ou ce qu'il représente pour vous à travers quelques recettes que vous allez nous faire goûter tout à l'heure.
Tout à fait.
Il est notamment question de maïs, voilà, pour se mettre à l'accent yankee. Dans les fauteuils des chroniqueurs, Elvira Masson et Arnaud Daguin. Bonjour les amis.
Bonjour à
Bonjour
tous.
Bonjour à toutes et à tous.
Elvira.
M.F.K. Fisher, ça vous parle?
Ah oui.
Elle aussi une figure légendaire, mais de la littérature culinaire et pratiquement inconnue en France.
An American food writer.
Exactly.
Très bien, on verra si notre amie Alice Waters avait une relation, une connexion avec elle.
Je pense que oui.
Arnaud Daguin, votre coup de lame.
Un coup de foudre aujourd'hui pour une belle endormie.
Oui, moi je vois de quoi il s'agit, on va découvrir votre sujet tout à l'heure. Derrière la console, Laurent Thomas avec Théo Gomard à la technique, Nadia Chougui pour la préparation de l'émission et l'animation de notre page On va déguster sur franceinter.fr. On y retrouve d'ailleurs les recettes de nos invités, les recettes d'Alice Waters d'aujourd'hui, nos infos pratiques et le podcast dont on va déguster.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, On va déguster.
On commence avec mon adresse de la semaine, qui devrait plaire à Alice Waters. Je l'ai un peu fait exprès, pas vraiment en fait, c'est une belle coïncidence. On connaissait le théâtre de Gennevilliers, au nord de Paris, pour sa programmation exigeante, hein Elvira?
Oui.
Vous connaissez bien ce théâtre?
Je connais bien, ouais.
On a trouvé une autre bonne raison de fréquenter ce théâtre des Hauts-de-Seine, on va y aller ensemble. C'est la petite table, maligne et vibrillonnante de, Patrice Gelbart.
Ah, Patrice.
Nous avons croisé il n'y a pas très longtemps.
Il y a quelques semaines à la fête de la vache nantaise, souvenez-vous. Nous l'avons croisé, il nous a raconté son projet et j'y suis allé. C'est un chef engagé, militant de la première heure de Slow Food, mouvement dont vous êtes, Alice Waters, la coprésidente au niveau international. Et Patrice Gelbart s'est fait connaître au fourneau de sa table de campagne Auberge du Cérou dans le Tarn. Puis il est monté à Paris pour ouvrir Youpi et Voilà, un bistrot dans le 10e arrondissement. Il débarque, il y a quelques jours, avec son complice de toujours, Stéphane Camboulide, au rez-de-chaussée de ce grand théâtre des années 30, dans le café juste à côté de la billetterie, un grand espace avec une hauteur sous plafond assez flatteuse, des tables d'hôtes en bois massif, des chaises d'écoliers et une ardoise. Mais alors cette ardoise, elle donne le sourire et elle donne de l'espoir. Dans mon assiette, je n'ai eu que des choses réjouissantes d'esprit champêtre. J'ai dégusté une demi-courge butternut rôtie, ponctuée de quelques lamelles de poire, des lichettes de haddock, des miettes de feta au lait cru. En plat, une poulette du Béarn avec des chairs d'une certaine fermeté, mais très goûteuses. C'est quand même le propre des volailles fermières qui gambadent. Hein.
Ferme mais pas dure.
C'est ça, elles sont un peu musclées. Il y avait ce petit jus de cuisson qui allait bien, une purée de haricots maïs avec des notes de châtaigne et une aubergine, des dernières aubergines de la saison, confites, fondantes en bouche. Vous savez combien pour cette formule du jour ? Entrée plat, 13,50 €. Ah avec ouais, que des produits, que des produits scrupuleusement choisis chez des paysans et des producteurs qui ont fait le choix de l'agriculture vivante. Patrice Gelbart est non seulement un excellent cuisinier qu'on n'a pas l'occasion de prendre en défaut sur ses cuissons et ses assaisonnements, mais en plus il pratique une cuisine, n'ayons pas peur des mots, humaniste et philanthropique. À 13,50 € la formule, on peut vraiment parler d'une popote saine, goûteuse, vertueuse et offerte au plus grand nombre. Et comme l'aventure ne fait que commencer dans quelques mois, un potager en permaculture va voir le jour sur les toits du théâtre de Gennevilliers et le printemps prochain, des légumes, des herbes, des petits fruits coloniseront les assiettes de Patrice Gelbart. C'est une belle histoire, non ?
Ah oui, ça me plaît bien, moi.
Il a planté une petite graine qui est en train de germer. Foncez, applaudir ! La cuisine de Youpi au théâtre, c'est le restaurant de Patrice Gelbart et Stéphane Camboulide au théâtre de Gennevilliers. C'est ouvert au déjeuner du lundi au vendredi et les soirs de représentation, une heure avant, une heure après le spectacle. On se retrouve dans un instant pour la leçon de cuisine d'Alice Waters, mais c'est juste après « Nous sommes demi au sec » choisi par Djoubaka. Bon appétit sur France Inter.
On n'a plus le temps de regarder comme ça le niveau de l'eau monter. On n'a plus le temps car on est déjà tout éclat poussé. On n'a plus le temps d'attendre que l'orage soit passé. On n'a plus le temps même si sous la pluie on sait danser. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui ne sont pas passés de loin à côté. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui l'ont un jour effleuré. On n'a plus le temps, on n'a plus le temps, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps car ce n'est plus possible de freiner. On n'a plus le temps car c'est comme si les jeux étaient déjà faits. On n'a plus le temps mais on fait comme si de rien n'était. On n'a plus le temps même si sous la pluie on sait danser. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui ne sont pas passés de.
Inter, je déguste, tu dégustes, on va déguster.
Tout a commencé quand je suis allée en France à l'âge de 19 ans. C'est comme si je n'avais jamais vraiment mangé avant ce moment-là. J'ai le sentiment d'avoir été éveillée par les marchés et la manière merveilleuse dont les gens se retrouvaient dans les cafés. Quand je suis rentrée de France, je me suis dit, je veux vivre comme ça. Et donc j'ai commencé à cuisiner.
Un extrait du documentaire que vous avez consacré, Camille Labro, à Alice Waters, c'était en 2016. Hein ?
Le bonheur est dans l'assiette, ça faisait partie d'une série, oui.
Une série pour Arte ?
C'est ça.
Avec le réalisateur Philippe Allante ?
Tout à fait. Très beau projet, on avait fait les Amériques du Nord au Sud, c'était la troisième saison.
Alice Waters s'exprimant sur la France, que représente la France pour vous ?
I'm almost about to cry.
Je suis sur le point de me mettre à pleurer.
It means it was the place where I learned the values.
Moi, ce que ça signifie, c'est que c'est l'endroit où j'ai appris les valeurs qui me sont chères.
It's always been a touchstone for me.
Et ça a toujours été pour moi une pierre angulaire.
The beauty. I'm just
la beauté.
Every time I come back.
À chaque fois que je reviens ici.
I remember. When I was here,
je me souviens du moment que j'ai passé ici. J'avais 19 ans.
And I think about that time.
Et je repense à cette époque.
C'était dans les années 60, 1965, je crois. Vous êtes venu en fait en France pour suivre des cours de civilisation française à la Sorbonne. Ça s'est pas vraiment passé comme prévu puisque ces cours de civilisation, vous les avez pas vraiment pris à la Sorbonne en fait, mais plutôt dans la vraie vie, les marchés, les cafés, les bistrots de Paris et de France. Vous êtes en quelque sorte tombée amoureuse de notre bien manger, de notre art de vivre.
It's true, and I never learned to speak French.
Et je n'ai jamais appris à parler français.
I didn't go to school.
Parce qu'en fait, je suis pas allée en classe.
But I learned something so valuable.
Mais j'ai appris quelque chose qui a tellement de valeur.
My senses.
Ça a vraiment ouvert mes sens, déclenché mes sens.
Took everything in.
Et j'ai tout absorbé.
Of the bread.
Les arômes du pain
hot from the oven.
Qui sort tout chaud du four.
Just the beauty of the markets in the streets.
La beauté des marchés dans les rues.
The way that people ate together.
La façon dont les gens mangeaient ensemble.
In the little restaurants.
Et les petits restaurants.
And the owner was there and his wife and the regulars.
Et les propriétaires étaient là avec leurs femmes, avec les clients habitués dans ces petits restaurants.
I would spend 2 hours at
J'y passais
table.
2 heures à table.
But maybe most important
Mais le plus important, peut-être,
my French friends
c'est que mes amis français m'ont appris
to be critical
à avoir un esprit critique sur ce que je mangeais.
We had to go and look at the menus.
Et nous allions voir, regarder le menu d'abord dans chaque restaurant
before we made our choice.
Avant de décider, avant de choisir.
Did it come in that day? Are those oysters
Est-ce que ces
really
produits ont été livrés aujourd'hui ? Est-ce que ces huîtres sont vraiment fraîches ?
Is that the way it should be ?
Est-ce que c'est vraiment comme
and
il faudrait pouvoir l'avoir ?
I have taken that and I am constantly
J'ai intégré ça et je m'en sers en permanence
get better at
pour
cooking
améliorer ma cuisine
with the whole staff at the restaurant.
Avec tout le personnel du restaurant.
It's never a personal criticism.
Ce n'est jamais une critique d'ordre personnel du travail de quelqu'un. C'est toujours une manière d'apprendre sur les ingrédients, sur la façon de faire ressortir les parfums, les goûts, et comment cuisiner avec une réelle intention.
S'il y avait une sensation gustative, un plat ou un ingrédient qui a particulièrement marqué votre expérience en France.
I had never had a
Bien
fraise
sûr.
De bois.
Alors, je n'avais jamais mangé de fraise des bois.
They brought a plate to
Et
the table.
On a apporté une assiette à table.
A big pile with
Tout
some
un
crème
petit
fraîche
monticule
on the side.
Avec de la crème fraîche.
And some sugar if you needed
Et du sucre
it.
Si besoin.
But I never needed the sugar.
Mais j'ai jamais eu besoin du sucre.
I'm not even sure I needed the crème fraîche.
Je suis même pas sûre que j'avais besoin de la crème fraîche.
That taste is still in my
Et ce goût my je l'ai toujours en tête.
My mind. And I went back to Berkeley and
je suis rentrée à Berkeley et une des premières choses que je voulais savoir c'est où est-ce que je peux trouver des fraises des bois.
And no one knew.
Personne ne savait.
And ultimately we found somebody
Et finalement on a trouvé quelqu'un
wanted to plant them
qui voulait en planter
for us
qui était disposé à le faire pour nous, pour le restaurant. Mais c'était tellement de travail.
She gave up.
Elle a fini par abandonner 2 ans plus tard.
And from time to time,
et de temps en temps,
some little strawberries,
on a quelques petites fraises
Chino family,
de la famille Chino, des fraises Mara des Bois, elles s'appellent. Elles ressemblent un peu aux fraises des bois. Il y a un parfum.
I think you need to go and pick them yourself.
Donc je pense que le mieux, c'est encore d'aller les cueillir soi-même dans les bois.
Voilà, les fraises des bois sauvages, quel délice, à un goût extrêmement subtil. Retour évidemment en Californie à la fin des années 60, diplôme de French Culinary Studies à l'université de Berkeley. Et là, un engagement politique à une époque évidemment où les énergies se libèrent, où un parfum de rébellion envahit les universités américaines et du monde entier. Vous vous engagez pour le Free Speech Movement, un mouvement libertaire pacifiste qui lutte contre les droits civiques et contre la guerre du Vietnam. Vous êtes une militante démocrate à tendance libertaire. Et parallèlement, une aventure gastronomique qui débute que Camille Labreau, dans un très beau portrait que vous avez consacré à Alice Waters il y a quelques années, c'était en 2011 je crois, dans Le Monde, ouais, vous qualifiez d'épopée, hédoniste, gastronomique, politique. La gastronomie, la politique, les idéaux se mêlent à cette époque-là dans l'esprit d'Alice Waters.
Tout à fait, je crois, enfin, elle le dira encore mieux que moi, mais je pense que le restaurant a été ouvert non pas parce que, enfin, elle voulait en faire un business, pas du tout. Je crois que au départ, l'idée, c'était vraiment de trouver un lieu où réunir ses amis. Et il se trouve que parmi ses amis, il y avait mes parents qui vivaient à l'époque à Berkeley. Voilà.
D'où la connexion avec Alice Waters.
Moi, j'étais pas née encore.
Vos parents étaient étudiants à l'université ?
Mon père, ouais.
Oui.
Ouais. Et je crois que c'était l'idée de réunir ses amis pour manger des bonnes choses et discuter politique en général à l'époque, en incluant évidemment la fascination de la France puisque le restaurant a été nommé d'après un personnage de Pagnol.
I saw the films.
J'ai vu les films.
Especially the trilogy.
En particulier la trilogie
and
de films.
Marius, Fanny, César.
Marius, Fanny et César.
I just wanted to live in that world.
Et j'avais envie de vivre dans ce monde-là, tout simplement.
Camaraderie.
Ce monde de camaraderie.
Just, it felt so real to me.
Ça me semblait tellement vrai.
I cried.
J'ai pleuré.
And I love playing cards.
Et j'adore jouer aux cartes aussi.
And
boire de l'anisette.
Et
je me suis dit, bon, bah, je vais appeler mon restaurant comme ça. Et mon ami Tom m'a dit, ça devrait être le personnage, le seul qui a gagné un petit peu d'argent dans l'histoire, Panis.
I also knew that a panis.
Je savais aussi qu'un panis c'était
like chickpea cake.
C'était une sorte de petit biscuit aux pois chiches de Nice. Et j'aimais bien cette idée.
It became chez Panis.
And my c'est devenu chez Panis. Ma fille s'appelle Fanny.
It would have been Marius.
Et si j'avais eu un fils, il se serait appelé Marius.
C'est ça. Et dire que chez Panis, au départ, à son ouverture en 1968, ce n'était qu'une bicoque rafistolée de Shattuck Avenue à Berkeley. Camille Labreau, vous décriviez ce restaurant au départ comme toile cirée sur les tables, des fleurs des champs, des couverts dépareillés. L'enseigne était dessinée à la craie, paraît-il. Et c'est devenu, des années plus tard, évidemment, un restaurant culte, qui est même un lieu de pèlerinage pour de nombreux gourmets américains et dans le monde entier. Comment expliquez-vous ce succès de Panis ? Est-ce lié au fait que vous avez été en avance par rapport à tout le monde dans cette tendance qui est un peu évidente aujourd'hui, cette tendance de la fourche à la fourchette, farm to table ?
I've asked myself this question many times.
Je me suis posé cette question de nombreuses fois.
I think one,
je crois que la première chose...
In a fast food
c'est que nous vivions dans une culture du fast-food.
We were doing something.
Et ce que nous faisions,
it was very, very different.
C'était très différent.
We only had one menu.
Nous n'avions qu'un menu.
I wasn't looking for organic food.
Je ne cherchais pas au début de produits bio.
I was looking for taste.
Je cherchais des goûts.
And then I ended up at the doorsteps.
Et je me suis retrouvée à frapper aux portes des producteurs bio locaux.
they became our friends.
Et ils sont devenus nos amis.
And I really credit the producers.
Et je leur rends hommage. Pour la réussite de ce restaurant, on la leur doit et j'ai commencé à mettre leur nom sur le menu. Et les gens demandaient, est-ce que ce sont les carottes Bob? Est-ce que ce sont les premières pêches de telle ou telle exploitation?
Mettre le visage d'un producteur sur un produit, c'était une idée totalement révolutionnaire au début des années 70.
It was at that time,
oui, à cette époque-là, ça l'était. C'était très inhabituel de parler des fermes, des exploitations agricoles.
I couldn't take credit.
Mais je ne pouvais pas dire que c'était seulement grâce à moi.
Because cooking, really, from my
Parce que la cuisine,
view,
pour moi, c'est vraiment
about having the right seed
avoir
in
les
the right place.
Bonnes semences et le bon endroit, en fait. Et traiter ces semences et traiter ces terres de façon écologique. Décider à quel moment il faut cueillir les fruits ou les légumes et les apporter au restaurant. Et toute cette partie-là, c'est 85% de la cuisine. Et ensuite, nous faisons qu'intervenir tout à la fin. C'est même peut-être 95% de la cuisine et nous, ce qu'on fait, c'est 5%.
Vous avez constitué un réseau local énorme de growers, de farmers qui vous fournissent en légumes, en viande, en toutes sortes de protéines. Comment fallait-il imaginer les premiers menus du restaurant chez Panisse? Il y a de quoi surprendre les clients américains, forte influence française, pâté en croûte, canard aux olives, tarte aux prunes. Un petit souvenir, Camille Labraud, de ce restaurant que vous avez fréquenté assidûment chez Panisse, à Berkeley, en Californie.
Moi, j'étais un petit peu plus grande les premières fois où je suis allée, adolescente. Mais je me souviens de Caille, parce qu'Alice aime beaucoup les Cailles. Et je crois que l'une des mes plus grandes émotions, c'était la soupe de maïs.
Ah.
Alors là, c'était un petit peu moins français. On était plus dans le produit très local. Et je dois dire qu'en fait, en Californie, ils ont des maïs qu'on n'a pas du tout... Enfin, qu'à l'époque, surtout, on n'avait pas du tout en France. Cette soupe est d'une simplicité totale.
C'est compliqué à trouver les épis de maïs un peu frais, un peu tendres. Arnaud Daguin, en France...
Ça commence à venir.
Oui, non, mais je m'adresse à vous parce que je sais que le maïs est une des questions qui vous est chère.
C'est une des plantes les plus controversées qui soient, à juste titre. Mais c'est vrai qu'on commence à avoir de très très bonnes semences.
Qui est même salement connoté, peut-on dire.
Oui, évidemment.
Synonyme évidemment aussi d'OGM, de semences hybrides, etc. Mais... un beau maïs tendre, frais, juteux, doux, on
bio,
peut en faire une très belle soupe.
Extraordinaire, c'est à tomber. Et c'est d'une simplicité totale.
Vous nous faites le bonheur, Camille Labraud quand même, de nous apporter une soupe de maïs.
Je l'ai faite.
Mais que vous avez donc préparée avec des maïs
avec
qui
des
ont
maïs
poussé en France.
Eh bien figurez-vous que ce sont des maïs d'Annie Bertin. Que
oui,
j'ai acheté
productrice en Bretagne.
Il y a quelques jours dans mon petit magasin préféré qui s'appelle Le Zingham. Parce que maintenant, on peut trouver des super produits à Paris, même dans ces Zingham, ils ont deux boutiques dans le 11e, rue du Chemin Vert et rue de la Fontaine au Roi.
Très bien.
Et donc, j'ai fait la recette du livre, très simple.
Et c'est génial, on veut surtout la goûter.
Oui, elle est là. C'est d'une simplicité absolue. L'idée, c'est de mettre un petit peu d'oignon dans du beurre, à fondre dans du beurre, pas de coloration, de rajouter le maïs égrené tout frais dedans, de laisser ça cuire 5 minutes grand maximum avec un peu d'eau. Et voilà. Alors après, Alice propose dans son livre d'essayer de rajouter un peu de crème, de rajouter un petit peu de piment. Moi, j'ai apporté aussi un petit cumin là que j'ai acheté à Turin au festival Slow Food où nous étions juste avant, voilà. Où il y a aussi, on peut mettre du thym frais, de la sarriette. Évidemment, c'est une base. Et donc on peut l'accommoder comme on veut. Qu'est-ce que vous en pensez?
Qu'est-ce que c'est flatteur? Qu'est-ce que c'est bon?
Quand tu manges ça, tu comprends pourquoi ça a nourri des générations et des générations pendant des siècles dans des continents. Quoi.
On dirait un fruit.
Oui, oui.
Ouais.
Avec une petite note pimentée. Hein.
Une poêle de piment d'Espelette pour faire plaisir à mon voisin.
C'est un délice.
Ouais.
Vous la filtrez, cette
Alors
soupe?
Oui, ça c'est le seul truc un petit peu embêtant de la recette.
Oui.
C'est que, comme avec les petits pois, etc., il y a pas mal de peau et que c'est vraiment bon quand c'est passé. Donc il faut la passer à la passoire fine pour avoir ce côté très velouté.
Ah là, pour le coup, il y a vraiment une texture soyeuse en bouche, c'est incroyable.
C'est magnifique. L'inspiration, elle est quoi? Elle est californienne, elle est mexicaine, elle est à l'origine, c'est un peu tout ça?
Bah, c'est la cuisine californienne, hein. C'est-à-dire qu'il y a, Alice a amené une influence française, et il y a évidemment le Mexique, qui est juste à côté. Il y a aussi pas mal d'Asie, puisqu'il y a beaucoup de migration d'Asie. Et c'est ça qui définit la cuisine californienne. En fait, pour moi, c'était juste une émotion totale, parce que j'avais, à 13 ans, je crois, quand j'ai mangé ça la première fois, j'avais jamais goûté ça. J'ai eu un choc. Je me souviens, Alice, que j'étais assise dans un des box en haut au café, qu'on m'a amené cette assiette, et j'ai eu une espèce d'épiphanie du goût.
Incroyable. Ça va, Marguerite, notre traductrice? Elle est bonne, cette soupe, ou pas?
Délicieuse, absolument délicieuse.
Non, franchement, c'est une réussite. La recette est sur franceinter.fr, à la page, on va déguster le velouté de maïs doux que nous a préparé Camille Labreau, qui est un de ses souvenirs d'enfance, est issu d'une somme très importante. L'art de la cuisine simple, notes, leçons et recettes d'une révolution délicieuse aux éditions Kéribus et Actes Sud. Ce livre a quand même beaucoup tardé à être publié en France. Il a été, il est sorti aux États-Unis il y a 11 ans.
2007, ouais.
Il a été traduit dans 18 langues.
Ouais, 17, 18, je sais plus, ouais.
Comment vous expliquez, Alice Waters, que la France a attendu autant de temps pour se procurer vos écrits, surtout que c'est un livre considéré comme un livre de référence dans la littérature mondiale?
C'est difficile à dire.
Parce que la France vous aime malgré tout, vous avez eu même la Légion d'honneur en 2011.
Maybe the French felt that they understood.
Les Français avaient peut-être le sentiment de comprendre cet art de la cuisine simple.
Almost a warning.
Pour moi, ce livre était presque un avertissement. Il s'agissait vraiment de sensibiliser à la provenance.
Camille Labreau, ça a été un combat de plusieurs années pour faire traduire ce livre. Ouais. Vous y teniez particulièrement parce que vous le pratiquez, vous le touchez, vous le cuisinez depuis pas mal d'années. Comment ça s'est passé?
Alice m'avait demandé si je pouvais le traduire et m'avait mis en charge de chercher un éditeur. Donc j'ai pris le bloc. Je me suis mise à traduire ça, ça m'a pris quelques mois, j'avoue. Et ensuite, je suis allée, manuscrit sous le bras, taper à la porte des éditeurs. Je me suis essuyée, refus après refus. Au bout d'un moment, j'ai même laissé tomber pendant un an ou deux. J'ai dit, bon, bah, ça marche pas, je comprenais pas. Enfin, moi, ma théorie, c'est que le public français, le lectorat et le cuisinier français en général est peut-être un peu trop présomptueux. Et n'a pas envie de s'entendre dire des recettes qui sont censées être dans son répertoire, vinaigrette, poulet rôti.
Le français a l'impression qu'on lui donne des leçons.
Oui, c'est ça. Et puis il dit, mais moi, je vais pas apprendre ça d'une
surtout
américaine.
Surtout quand c'est des États-Unis.
Voilà, je sais, je maîtrise ça.
Une femme,
ça.
Non mais de quoi?
Voilà, en plus une femme. Imaginez.
Alors Daguin, vous avez raison.
Or, pour avoir pratiqué ce livre, on apprend la cuisine, on apprend à maîtriser des recettes. Comme nulle part ailleurs, comme d'aucun autre livre de cuisine que je connaisse. Parce qu'en fait, Alice vous prend par la main à travers les recettes. Ce sont toujours des recettes très simples, très pures. Au sortir de la lecture et de la pratique de cette recette, vous allez savoir la faire et la maîtriser pour toujours. C'est ça qui est formidable. Et résultat garanti.
C'est des recettes qui marchent.
Ah oui,
non mais il y a tant de livres
fait l'expérience
dont les recettes sont foireuses, il faut le dire hein, quand même.
C'est l'anti-livre de chef.
Oui, c'est l'anti-livre de chef. Et j'ai envie de dire, pardonnez-moi, c'est un peu l'anti-simplissime aussi, parce que c'est l'art de la cuisine simple, mais totalement expliqué de bout en bout.
Ah oui.
Qui vous aide, qui vous accompagne. Mmh. Et ça, à la fin, on a le résultat. Et pourtant, il n'y a même pas de photo hein, dans le livre. Donc, il n'y a pas ce défi aussi, ah, il faut réussir comme sur la photo. Mais par contre, ce qu'on a dans l'assiette à la fin, ce qu'on a dans le plat, c'est juste divin.
C'est peut-être ça qui rebutait aussi les éditeurs. C'est tellement plus facile de vendre des livres.
Quand vous lisez dans cette grosse somme de 464 pages la recette de salade de carottes à la marocaine, de risotto, de focaccia, de gazpacho, etc., vous avez vraiment l'impression d'avoir maman au téléphone qui vous explique la recette. Il y a un accompagnement qui est tout à fait réconfortant et qui vous emmène à un résultat tout à fait fiable, en fait. C'est ça, certainement, la force de ce livre. On va se retrouver, évidemment, dans un instant pour continuer à évoquer la belle épopée d'Alice Waters, mais juste avant le coup de l'âme d'Arnaud Daguin.
Sur France Inter, on va déguster.
Figurez-vous que je reviens de Corse où je fus invité par Slow Food.
On y revient, Slow Food évidemment, dont vous êtes la vice-présidente internationale, Alice Waters, et que nous connaissons bien, mouvement créé par Carlo Petrini en réaction au fast-food, blablabla, etc. Premier festival en Corse.
Absolument, mon cher, et de ce retour, je peux vous l'affirmer, la Corse roupille.
Oh là là, il va se faire
attention, 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 j'ai bien dit la Corse et pas les Corses. Vous me connaissez, François Régis, loin de moi les poncifs éculés. Et puis, j'ai pas trop envie de me prendre un coup de fusil.
Ah bon, voilà un poncif. Oui.
Donc, ce qui roupille en Corse, c'est les Corses. Non, 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 pas les Corses, les Corses. En un seul mot, la surface, le sol. Des centaines de milliers d'hectares dormant sous le vert édredon du maquis. Le maquis couette, quoi. La Corse, historiquement grenier à blé de la Méditerranée, devint hystériquement, en quelques décennies, le bronze cul de l'Europe. Comment se fait-ce? C'est Guy Maestracci, émérite vigneron, et son fils Pierre-François, brasseur de la bière locale Ribella, à Patrimoine, qui m'ont donné quelques éléments de réponse. Ils m'ont raconté comment, là aussi, comme dans bien d'autres territoires, la valeur des terres a changé de camp. Jadis, au temps de l'emprise agricole, on donnait en héritage aux fils aînés les terres de l'intérieur, celles qui avaient de la valeur. Elles avaient de la valeur car elles nourrissaient le territoire et ses habitants. Et on laissait aux filles les terres dérisoires, le littoral, le sable stérile, moustiques et malaria, tout ça. Et c'est là que ça se corse. Tout changea. Il devint plus facile et moins cher de faire venir le blé du continent que de le produire sur place. Et en même temps, le tourisme apparut. Les mouches ont changé d'âne, comme on dit chez moi, et les héritages de destinataires. Aux aînés, les zones constructibles au bord de la mer, devenues tellement lucratives, et aux filles, les terrasses agricoles abandonnées, couvertes de chênes verts, de cochons sauvages, le maquis. Guy Maestracci, dans sa grande sagesse, a baptisé cette Corse-là, celle de l'intérieur, que seuls les chasseurs et quelques bergers opiniâtres occupent encore. Il l'appelle la belle au bois dormant. Il dit qu'elle n'attend que le baiser de son prince pour reprendre vie. Et je le soupçonne de penser que le profil du prince en question, c'est celui de Pierre-François, son fils. Mais pas que lui, bien sûr. Ce sont tous ces jeunes gens, pleins d'énergie, qui arrivent ou reviennent du continent avec une idée en tête, habiter et faire vivre ce territoire. Mais quel pourrait être le baiser du réveil? Comment, sans se ruiner ou se tuer à la tâche, réouvrir ces paysages en sommeil? C'est Alain Canet, chantre de l'agroforesterie, qui, au cours d'une belle balade, nous mit sur la voie. Il nous raconta comment, grâce aux animaux élevés en agroforesterie, cochons, brebis, chèvres, volailles, on pourra reconquérir ces terres et les rendre à nouveau cultivables. François Mullet, pionnier du maraîchage en sol vivant, nous fit rêver en imaginant les vignes et le houblon redevenus lianes, grimpés aux arbres. Pendant quelques instants, nous avons vu la Corse ouvrir les yeux et nous sourire. Qu'est-ce qu'elle est belle au réveil, l'île de beauté. Vivement les baisers de tous ces princes charmants.
Bravo, bravo, bravo Arnaud Daguin. Et bonjour à la famille Maestracci à Patrimoine. Ils sont vignerons, brasseurs, restaurateurs, engagés dans l'agriculture et l'alimentation vivante.
Moi, j'aurais bien vu une petite Ribella, non? De Patrimoine.
On a le droit de trahir un secret, Mira. Ouais. On l'a fait plusieurs fois ensemble cette
année.
On connaît bien, évidemment, l'adresse des Maestracci à Patrimoine. Merci beaucoup. Dans un instant, on va parler recettes de délicieux pancakes. On va parler des engagements. Vous aviez quelque chose à dire, Alice Waters?
I lived in the mountains of Corsica. For one month.
J'ai passé un mois dans les montagnes de la Corse.
Il y a dans les années 60 ou récemment?
It was when 9/11.
Okay.
C'était au moment du 11 septembre.
I was there.
And
we
Corse.
Stayed in a house, an et old house.
Nous étions dans une vieille maison.
A bread oven outside.
Qui avait un four à pain.
And it was the reason that one of our best bakers.
C'est la raison pour laquelle un de nos meilleurs boulangers en Californie a ouvert une boulangerie, parce qu'il avait appris là-bas, en Corse.
Dans un instant, on évoque votre engagement politique, Alice Waters, de très belles recettes également, des tours de main, votre influence aux États-Unis. Mais juste avant, une petite surprise sonore, ça va vous rappeler des souvenirs. Dream, a little dream of me, c'est évidemment un titre que The Mamas and the Papas ont chanté en 1968, mais là on vous propose une version de 1957, chantée par, attention, Ella Fitzgerald et Louis Armstrong.
Brioubou-doubou, elle est de yaboubou-doubou, star shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me.
Stars fading, but I linger on, dear.
Oh, how you linger on.
Still craving your kiss.
How you crave my kiss.
Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this.
Give me a little kiss. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Buzz, 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 buzz. Fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming.
Till sunbeams find you. Keep dreaming.
Gotta keep dreaming.
Leave the worries behind you. But in your dreams, whatever they be, you've gotta make me a promise. Promise to.
On va déguster sur France Inter la cuisinière Alice Waters qui est au fourneau de chez Panisse et qui a beaucoup d'influence aux États-Unis, notamment sur les questions d'alimentation et de gastronomie durable, et notre invitée exceptionnelle. Merci beaucoup d'être là. On parle de votre livre « L'art de la cuisine simple » aux éditions Kéribus et Actes Sud, traduit par Camille Labro, sacré travail. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce livre, c'est notamment son introduction où vous évoquez l'expression qui symbolise certainement votre combat, la révolution délicieuse, the delicious revolution, et vous égrenez une philosophie qui comporte quelques conseils auxquels les auditeurs dont on va déguster vont être sensibles. Est-ce que vous pourriez nous les énumérer en anglais?
Yes.
Oui.
Yes, I will. Eat locally and sustainably.
Manger local et durable.
Eat seasonally.
Manger de saison.
Shop at the organic farmers' markets.
Acheter directement auprès des producteurs bio.
Plant a garden.
Planter un potager.
Conserve, compost and recycle.
Recycler, composter, réutiliser.
Cook together.
Cuisiner ensemble.
Eat together with your children and friends.
Manger ensemble avec vos enfants, avec vos amis.
Remember, food is precious.
Est-ce que dans une Amérique réputée puritaine, où parfois le plaisir à table n'est pas forcément quelque chose d'évident, est-ce que cette révolution délicieuse est comprise et a fait du chemin?
Not really.
Pas vraiment.
We live in a fast food culture.
Nous vivons dans une culture du fast food.
And we want food to be fast, cheap and easy.
Nous voulons que notre alimentation soit rapide à obtenir, peu chère.
So to bring people back to the table.
Donc ramener les gens vers la table.
You really need to have some corn soup there.
Il faut vraiment du velouté de maïs pour ça.
C'est la meilleure façon de se réconcilier avec les plaisirs de table, évidemment. Les préceptes que vous venez d'énumérer, qui constituent votre philosophie culinaire, c'est également sur ces principes que s'appuie une opération d'envergure que vous menez depuis quelques années, de Edible Education, l'éducation comestible en quelque sorte. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot de cette action qui prend de plus en plus d'ampleur aux États-Unis et dans le monde ?
I've been working on a project.
Je travaille sur un projet à Berkeley, en Californie.
A school with 1,000 children.
Donc j'ai commencé par ce projet. C'était une école de 1000 élèves qui parlaient 22 langues différentes.
And we made a garden.
Nous avons créé un potager et une cuisine dans le collège.
But it's not a kitchen to learn cooking.
Mais c'est pas une cuisine où on apprend à cuisiner réellement.
And not a garden to learn gardening.
Et ce n'est pas non plus un potager où on apprend seulement à jardiner.
You learn science.
On étudie les sciences, les mathématiques dans le jardin. Ce sont des salles de classe. Dans la cuisine, on apprend une langue. On apprend l'histoire d'un pays.
You do learn about cooking.
Et oui, on apprend à cuisiner, on apprend des choses sur la cuisine parce qu'on goûte. Mais l'idée, c'est une pédagogie qui est très proche de Montessori.
You're learning through all your senses.
On apprend par tous les sens.
And the students love
Et les élèves adorent ça.
They never miss a class.
Ils ne manquent jamais un cours.
Et on vous prête d'être aussi à l'origine du potager bio que Michelle Obama a construit dans les jardins de la Maison Blanche.
Well, I have to say that I absolutely talked to her about this idea.
Je dois dire qu'effectivement, je lui ai parlé de cette idée, c'est vrai. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle le ferait si vite et qu'elle le ferait avec des enfants.
It was a beautiful first, you know, project for the administration.
C'est un premier projet fabuleux pour l'État américain. Et les images de ces enfants qui creusaient dans le jardin ont fait le tour du monde.
So I've been working on the Vatican.
Je travaille au corps le Vatican.
Camille Labro, au lendemain de l'élection de Donald Trump, vous avez reçu une lettre, paraît-il, signée Alice Waters. Effectivement, Donald Trump n'est pas réputé pour être le président le plus sensible aux questions environnementales, mais le ton de la lettre qu'a rédigée Alice Waters était assez étonnant.
J'ai reçu une circulaire d'Alice qui incitait un petit peu à une sorte de rébellion alimentaire, qui disait « on ne va pas se laisser abattre, on va continuer la révolution délicieuse et c'est peut-être justement... » en ayant cet esprit séditieux qu'on y arrivera encore mieux. Avec Alice, c'est toujours ça. On est toujours dans une lutte, une bataille, mais positive, du lobbyisme positif, ce qu'elle fait constamment, et pour arriver à ce qu'on mange mieux partout.
Pour vous, l'élection de Donald Trump était l'occasion justement d'une résistance, d'une rébellion? Ça pouvait éventuellement libérer d'autres énergies?
Absolument. We are... making an effort in the state of California.
Nous faisons des efforts dans l'État de Californie auprès du nouveau gouverneur de Californie
and the superintendent of schools, if we have,
et les responsables du système scolaire, en espérant que nous aurons le candidat que nous souhaitons au mois de novembre. Nous voulons leur proposer un projet, une initiative pour les repas dans les écoles, pour tous les élèves de Californie.
To feed them a free,
pour que la cantine soit gratuite, local, que ce soit une alimentation durable, locale,
to buy all the food,
acheter
from the farmers
tous les produits
and the ranchers
aux producteurs,
who take care of the land,
aux éleveurs
future,
qui prennent soin de la terre et qui l'entretiennent pour l'avenir.
We will bring the values of
et pour apporter les valeurs de la nutrition, du sens de la communauté.
Stewardship.
Et de la responsabilité vis-à-vis de la terre, tout simplement en passant par la cantine.
Dans un instant, une petite leçon de poulet rôti et de pancake avec Alice Waters et Camille Labro. Mais juste avant, le destin d'une American food writer auquel je crois Alice Waters est très sensible.
On va déguster.
Elvira Masson.
Oui, on l'a compris à ce stade de l'émission que Alice Waters a occupé un rôle absolument crucial dans la révolution de la scène culinaire américaine, et notamment par son amour et sa compréhension très intime de la cuisine française. Elle n'a pas été la seule. Avant elle, il y a eu notamment Julia Child, qu'on évoquait en début d'émission, la cuisinière californienne, première TV chef, comme on pourrait dire, pionnière en son genre de la popularisation de la cuisine française aux États-Unis et superstar de son vivant. Contemporaine de Julia Child, mais dans un genre totalement différent, assez méconnue en France, il y a M.F.K. Fisher. M.F.K. pour Mary Frances Kennedy Fisher, née en 1908 dans le Michigan, morte en 1992 en Californie. Son métier n'était pas la cuisine, bien qu'elle cuisina merveilleusement au dire de son entourage. Et je ne sais pas si Alice a goûté la cuisine de M.F.K. Fisher.
I was very lucky to know her.
J'ai eu la grande chance de la connaître.
She came to chez Panisse for her.
Elle venait chez Panisse. Elle y est venue pour son 75e anniversaire.
We made a menu called Consider the Oyster.
Et nous avons créé un menu spécial sur l'huître.
Je vais vous en dire plus sur ce livre.
Le titre original de son livre était Consider the Oyster, la biographie sentimentale de l'huître. Et nous avons trouvé toutes sortes de variétés d'huîtres, des petites, des grandes. Et c'est ainsi que le repas commençait.
M.F.K. Fisher n'est donc pas cuisinière, bien qu'elle cuisina très bien. Elle est, on peut dire, la première grande food writer américaine. Vous devez la connaître et vous devez la lire absolument, même si elle est méconnue en France. À l'occasion de quelques années de vie en Bourgogne avec son premier mari, où elle étudiait la peinture et la sculpture, elle est littéralement tombée amoureuse de la cuisine française. Et de retour aux États-Unis, elle s'est plongée avec délice dans la recherche sur la gastronomie française, mais pas seulement, sur l'histoire de la gastronomie en général. Elle était incollable, un puits de savoir, un peu notre Maglone Toussaint-Samar.
Eh oui, la regrettée Maglone Toussaint-Samar, historienne de la gastronomie.
Exactement, elle a commencé à écrire pour des magazines et elle a publié son premier essai, Le fantôme de Bria Savarin, en anglais dans le titre Serve It Forth, en 1937. Passionnée par Bria Savarin, elle sera d'ailleurs la première en 1949 à traduire aux États-Unis sa physiologie du goût. Alors son essai, c'est pas du tout une biographie de Bria Savarin, c'est un texte un peu hybride, où affleurent des souvenirs bourguignons, le parfum du pain d'épices qui pénètre les murs de la cathédrale de Dijon, des choses qui la régalent, des choses aussi triviales que des quartiers de mandarines qu'elle s'amuse à mettre à sécher sur un radiateur. Le ton est très personnel et très littéraire et si différent qu'au moment où elle a remis son manuscrit, tous les éditeurs à qui elle l'avait remis pensaient que c'était un homme qui se cachait derrière ces trois lettres de M.F.K. Fisher. Considérée comme brillamment drôle, elle signe à l'époque un contrat avec la Paramount. Elle écrit des sketchs pour les plus grands comiques et figures télévisuelles de l'époque, Bob Hope et Bing Crosby. Son grand succès en librairie arrive en 1941, justement avec ce petit bijou de connaissances et de recettes, Considering the Oyster, que vous évoquiez, Alice, joliment traduit en français sous le titre de Biographie sentimentale de l'huître, publiée en France seulement 50 ans après sa première publication américaine et qui démarre ainsi. L'huître mène une vie terrible mais palpitante. Quand on y songe, ses chances de vivre sont des plus minces. Et si elle échappe au trait que lui décoche sa propre outrageuse fortune et parvient à trouver, au cours des deux semaines que dure son insouciante jeunesse, un endroit propre et lisse où se fixer, les années qui suivent regorgent de tensions, de passions et de dangers. Tout est là. Selon le poète Oden, elle était l'une des plus grandes stylistes de la prose américaine, pas uniquement culinaire, une des plus grandes stylistes de la prose américaine. Le romancier John Updike disait d'elle qu'elle était la poète des appétits. Il y a tout chez M.F.K. Fisher. La poésie, l'appétit, la mémoire, l'érudition, la drôlerie, la férocité, il faut la découvrir. Il faut découvrir ce grand écrivain et idéalement, il faudrait tout publier, tout traduire et s'atteler à cette tâche. Un peu comme avec Alice Waters, il est temps de la rencontrer vraiment.
Et son œuvre est-elle traduite en français ?
Très, très, très lacunairement. On peut trouver la biographie sentimentale de l'huître, une coédition Édition du Rocher Anatolia. On peut trouver un essai autobiographique, je vous mets les références sur le site, mais il y a des vingtaines d'essais et ouvrages qui n'ont pas encore été traduits. Vraiment, ce serait... c'est le moment.
Eh bien, ils ont du boulot, les éditeurs français. Ouais. C'est très bien. L'art de la cuisine simple, en tout cas, et c'est la bonne nouvelle du jour, a été traduit en français. Notes, leçons et recettes d'une révolution délicieuse, Kiribus Éditions et Actes Sud, signé Alice Waters. Alors, ce n'est pas qu'un vade-mécum de cuisine française, évidemment. Les influences... des influences multiples ont nourri votre univers culinaire, influence méditerranéenne, italienne, mexicaine, il y en a vraiment pour tous les goûts. Camille Labro, qui connaît par cœur ce livre, a notamment quelques recettes de référence. Le poulet rôti, vous ne le faites qu'avec ce livre. Maintenant, vous connaissez la recette par cœur.
Ah oui, j'ai même plus besoin d'ouvrir le livre. C'est ce que je vous dis, je me le suis complètement approprié. Mais en fait, lorsque je le traduisais, j'ai voulu en tester certaines pour des histoires de conversion, de mesures, etc. C'est ça qui m'a permis de me rendre compte que tout fonctionnait tout le temps, merveilleusement. Donc le poulet rôti, c'est génial, c'est la recette la plus simple qui soit et elle est formidable.
Garantie sur facture.
Garantie, réussite garantie. Donc l'idée c'est
les secrets.
Les secrets, il y en a 3 ou 4. Il faut d'abord, évidemment, acheter un super bon poulet.
Hein. Ça c'est la base.
Bon, fermier, nourri, bio, etc. Il faut l'assaisonner à l'avance. Ça c'est une chose à laquelle on pense pas forcément. Il faut le saler, le poivrer ou mettre quelques épices ou quelques herbes à l'intérieur de la cavité 1 voire 2 jours à l'avance. Ensuite, on l'emballe dans un linge, pas de plastique s'il vous plaît, un linge ou du papier cuisson, au frais. Et là, comme ça, il prend cette espèce de saveur.
Il s'imprègne de
du sel, ça suffit, hein. Ça peut suffire. Ensuite, il faut le sortir au moins une heure à l'avance pour qu'il soit à température. Commencer à four très chaud. Alors, il y a débat, hein. Il y a différentes écoles, mais la recette d'Alice, moi, je l'ai testée 1000 fois et elle marche formidablement, donc je m'en tiendrai à celle-ci. Commencer à four très chaud, 210 degrés.
C'est l'école du feu fort. Hein.
C'est l'école du feu fort, c'est ça. On baisse en cours de cuisson,
oui.
Du coup. Et le troisième secret, c'est de laisser le poulet sur le dos 20 minutes.
Donc ensuite, le dos, c'est la partie plate. Hein.
C'est la partie plate. Avec
pas la partie, la partie voilà. Bombée du suprême, on va voilà. Dire que c'est le ventre du poulet.
C'est ça. Peu importe, on peut commencer dans les deux sens.
D'accord.
Et, puisque au bout de 20 minutes, on le retourne.
Oui.
Et 20 minutes ensuite, encore, on le retourne encore. Après, il y a quelques nuances sur la durée en fonction de la taille du poulet. Une fois qu'il est cuit, et là je vous sors au bout de cette heure de cuisson, il est normalement prêt, on le sort et on le laisse reposer. Et là, parce que tous les sucs vont se répandre dans toute la chair, et succès garanti. Poulet parfait, voilà.
On l'assaisonne à l'avance, on le retourne bien pendant la cuisson, feu fort, on l'a compris, et on le laisse reposer, c'est important, parce que je crois que les jus, on va demander à l'ancien cuisinier étoilé, les jus migrent au centre.
Je suis pas si ancien que ça, il y en a marre maintenant.
C'est vrai. Il est temps que vous réouvriez un restaurant de Daguin.
André Guillot disait, il n'y a que les sots ou les imprévoyants qui assaisonnent leur viande au moment.
Ah.
Première chose.
Oui.
Deuxième chose, André Guillot disait, le temps le plus important d'une cuisson, quels que soient les stades auxquels vous l'ayez soumise, est le repos.
Oui.
Voilà.
Deuxième chose, André Guillot, qui est un de nos ancêtres à tous, je pense que Alice Waters fait partie du club, on a bien compris tout ça maintenant, et c'est bien que tout le monde soit au parfum. Quoi. Merci Camille pour répandre la bonne parole.
On arrive au terme de cette émission, on n'a malheureusement pas le temps d'entrer dans le détail de la recette des pancakes, mais vous nous en donnez le principe et les ingrédients, on va retrouver la recette d'Alice Waters, traduite par vous Camille, sur le site internet de l'émission.
Les pancakes, c'est la recette que je fais tous les dimanches matin avec mes enfants,
oui.
Qui font eux-mêmes d'ailleurs maintenant, et qui est juste merveilleuse, parce qu'en plus elle est adaptable, on peut la faire avec de la farine complète, de la farine de sarrasin, de la farine même d'avoine.
On peut mélanger un peu les farines.
Et il y a un petit secret qui est d'incorporer des blancs en neige qui rendent les pancakes parfaitement légers. Et je vous en ai amené. Alors évidemment, c'est quand
on
même mieux quand c'est tout chaud de la poêle, mais je vais quand même les distribuer.
J'en ferai mon affaire.
J'ai le droit de dire que vous avez là-bas vos lèvres ou pas
peu, oui.
C'est l'heure.
On veut en goûter, s'il vous plaît.
Je vous en prie. Faites passer.
Oui.
Avec un petit trait de beurre fondu et un petit peu de sirop d'érable, voilà, c'est parfait. Ou du miel, ou du sirop d'agave, ou de la confiture.
Ils sont bons.
Alice me disait que elle aime beaucoup une recette qui est plutôt inspirée de sa fille Fanny, où on mixe des flocons d'avoine pour en faire la farine. Et apparemment, je testerai la prochaine fois. Ça fait des pancakes encore plus légers et encore plus aériens.
Ils sont déjà à sa recette validée 100%.
Ouais, ouais.
Un immense merci à Alice Waters d'être passée par les studios dont on va déguster. On était très honorés de votre visite. Et puis signalons aussi la biographie d'Alice Waters, disponible en anglais, peut-être traduite un jour en français.
Ça s'appelle Coming to My Senses. Ça a été publié par Hardy Grant Books. Et ce serait vraiment formidable, là aussi, que ce soit traduit en français.
Camille Labro, merci beaucoup.
Merci à vous.
Un livre pour bientôt. Ah, le oui. prolongement oui, en oui. livre de vos chroniques dans M.
C'est ça, ça s'appelle Affaire de goût, recette mémoire. Et ça sort le 10 octobre, très bientôt.
Pour quel éditeur ?
Pour, aux éditions du Rouergue.
On se
je crois que François Régis, vous êtes même dedans.
Ah oui, il y a la... Y a la y a...
Et Arnaud aussi.
Oui, Arnaud,
il manque plus que moi, là.
Bah oui, voilà, ce sera pour le tome 2, Elvira.
Merci Elvira, merci beaucoup Arnaud, à la prochaine.
Merci à tous.
Avec plaisir, thank you Alice.
Thank you Alice.
Thank you a lot for everything.
La semaine prochaine, sans transition avec notre sujet d'aujourd'hui, on explore les vices et les délices de la cuisine russe. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.